CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour à toutes et à tous, merci à chacun d'être avec nous pour ce nouveau magazine d'actualité locale où on vous proposera une journée petite enfance. Ce sera ce samedi à la salle des fêtes d'Espinasse avec une matinée consacrée au métier et à la formation petite enfance puisque oui, il y a un vrai manque de professionnels sur le territoire de la Comcom QRGA. Et l'après-midi, vous pourrez venir pour des animations pour les familles et ce sera pour la deuxième partie de ce mag. Avant ça, première partie autour de l'eau en midi Quercy. C'est une conférence qui nous est proposée pour ce vendredi par l'association Les Échanges Essentiels. Ça va se passer à 18h30 à l'auditorium du château de Nègrepelisse sur une entrée libre. L'eau en midi Quercy, une conférence animée par Christian Tchekeuf. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler de l'eau, son abondance, sa qualité en pays midi Quercy, mais vous intervenez en tant que président du conseil scientifique du PNR, le parc naturel régional des Causses du Quercy. Et donc ça va être ma première question, qu'est-ce que c'est qu'un conseil scientifique pour un PNR?
Alors un conseil scientifique, c'est une réunion de scientifiques qui est censée donner un avis neutre, enfin en tous les cas scientifique, destiné aux politiques ou à l'aménageur du territoire, qui normalement en prend compte. Voilà, donc par exemple, je vais vous donner comme exemple une note qu'on a écrite sur l'intérêt ou non l'intérêt d'avoir une zone de développement éolien sur une zone touristique. Voilà, donc on a justifié la raison pour laquelle on ne souhaitait pas. Après, nous donnons un avis consultatif, hein, c'est tout. Hein.
Et scientifique donc?
Uniquement scientifique, oui. Mmh.
Alors là, le sujet, c'est l'eau en midi Quercy. Qu'est-ce qu'on peut commencer par en dire? Alors là, il a commencé à pleuvoir un petit peu, peut-être un topo sur son abondance, ou pas d'ailleurs?
Alors, en fait, effectivement, on a remarqué une certaine cyclicité dans les précipitations. Et ce qu'il y a de plus important sur le renouvellement de la ressource, hein, la ressource étant dans la nappe phréatique ou dans les aquifères un peu plus profonds. Donc cette année, on va retrouver un niveau très honorable grâce à la pluviométrie assez dense de ces 4 ou 5 derniers mois, qui va peut-être, enfin je le souhaite en tous les cas, si ça continue comme ça et si nous sommes assez raisonnables sur les prélèvements, nous faire passer un printemps et un été sans trop de soucis, quoi, même s'il y a un peu de canicule pendant cet été, quoi.
Comme l'an dernier.
Par exemple, oui, on a eu 2 voire 3 épisodes caniculaires successifs qui ont été troublants d'ailleurs pour la flore, hein, la végétation. Voilà, et il y avait de quoi s'inquiéter, hein, très, très honnêtement, pour la végétation naturelle, celle des forêts ou de nos prairies. Elle a tenu le choc, heureusement, mais on était quand même en limite de rupture. Hein.
Alors là, vous parlez de l'eau pour la végétation, vous avez aussi mentionné l'eau dans les nappes phréatiques, l'eau qu'on utilise, l'eau qu'on boit.
Oui.
Une utilisation modérée, consciente.
Alors, l'utilisation domestique, ça représente 3% de la totalité des prélèvements. Hein. Donc, c'est pas. C'est vrai qu'en fait, on a tout intérêt à être vertueux, mais en fait, c'est pas le consommateur d'eau ou le buveur d'eau qui a le plus de conséquences, hein, sur le renouvellement de la ressource ou la disponibilité de la ressource. Ça, c'est faux. Il y a d'autres activités économiques, on va dire, hein, globalement économiques, qui ont besoin d'eau et qui parfois ont des prélèvements un peu excessifs, à mon goût, quoi. Hein. Mais c'est un débat compliqué, un peu politique, et c'est vrai que moi je me fonde plutôt sur des chiffres pour évoquer ce que je pense, plutôt que sur des impressions, quoi. Donc je vous ai dit 3% des prélèvements totaux vont à la consommation domestique. Il y a une étude très intéressante qui s'appelle Garonne 2050, qui a été éditée par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui montre quand même que le consommateur a tendance à baisser ses prélèvements. En gros, on a dû passer de 170 litres d'eau par jour et par habitant à 135. Alors, quand on parle de ces quantités-là, ça va de soi, c'est une moyenne, hein, qui existe entre l'eau que l'on consomme dans le ménage et l'eau des services publics. Par exemple, on va intégrer dans cette consommation-là l'eau qui va servir à nettoyer les trottoirs ou l'eau qui va servir, par exemple, à laver les couloirs de l'hôpital qui est à côté. Donc, en fait, on parle d'une moyenne. Hein.
Alors là, ça, c'est pour les 3%, pour les 97 autres pourcents. Alors, vous parliez de niveau économique. Par exemple, moi, je pense aux grosses usines de métallurgie qui...
Alors, il y a ça. C'est vrai que quand on regarde... par exemple, la quantité d'eau qu'il faut pour transformer une matière première, c'est parfois impressionnant. On sait que pour faire un litre de bière, il faut 100 litres d'eau, par exemple. Mais on sait que pour faire un kilo de coton, il en faut 5000.
Alors, des producteurs d'eau. De bière, il y en a en pays Midi-Quercy, des producteurs de coton, oui. Il y en a un peu moins.
Il y en a pas beaucoup. Mais quand on achète quelque part un t-shirt de 100 grammes, on sait qu'il a fallu 500 litres d'eau pour le fabriquer. Quoi.
Ça, c'est pour la consommation de l'eau.
Oui, alors c'est vrai qu'on ne produit pas beaucoup de coton dans la région. Hein.
Non, il y a du chanvre.
Je reconnais. mais on produit, il y a d'autres cultures hein, qui sont naturellement des consommateurs d'eau également. Quoi.
L'agriculture, notamment ?
Ben, l'agriculture par nécessité, c'est vrai. Je pense qu'il y a quand même quelques efforts à faire à ce niveau-là. Alors, je sais très bien que c'est facile à dire. Qu'on a besoin justement des cultures que les agriculteurs font, ça c'est évident. On fustige énormément le maïs. Il faut dire que le maïs en fait normalement a besoin de moins d'eau que le blé, normalement. Après, ce sont les techniques d'arrosage et des périodes à laquelle en fait on arrose qui font le problème, quoi. Donc je pense qu'au niveau des itinéraires techniques, il y a des choses à revoir. Je remets pas en cause hein, du tout les cultures. Ni les cultivateurs, les agriculteurs, mais je crois qu'il y a des efforts à faire quant aux itinéraires techniques à mettre en place.
Mmh. Vous allez proposer quelques alternatives alors lors de cette conférence de vendredi.
Il y a des alternatives, il y en a qui sont menées déjà sur le secteur du Pays Midi-Quercy. Je pense à un agriculteur en particulier qui travaille sur, enfin qui a ses champs sur Nègrepelisse. Donc par correction, je ne dirai pas son nom. Parce que en fait, je ne lui ai pas demandé la permission, mais en fait, pour avoir parlé avec lui, il travaille sous couvert végétal, c'est-à-dire qu'il plante de la luzerne et du trèfle, en fait, des légumineuses, dont le système racinaire va ouvrir un peu le sol et va permettre à l'eau de mieux aller vers la racine du maïs, par exemple. Hein. Donc, ça va justifier une consommation très inférieure d'eau. Et surtout, ce qu'il avait constaté, c'est qu'à la sortie des drains, il avait remarqué que l'eau était d'excellente qualité, que la terre permettait de bien filtrer l'eau, et alors que sur les techniques ou les itinéraires techniques conventionnelles, c'est pas du tout le cas, quoi. Donc il y a cette possibilité-là. Il y a des pionniers dont on se moque en général, mais 4-5 ans après, on s'aperçoit que c'est eux qui ont raison. Je crois qu'il faut les écouter, aller les voir et puis en faire la promotion. C'est dans l'intérêt vraiment général. Hein.
Alors, vous avez commencé à le mentionner. On parle de la qualité de l'eau en Midi-Quercy ?
Oui, absolument. Alors, au niveau de la qualité, il va de soi que le fait d'avoir une diminution de la ressource en fait va concentrer les charges hein, qui sont portées par une certaine quantité d'eau. Donc on peut avoir des problèmes demain. Effectivement, il faut savoir que pour potabiliser une eau, il y a des normes. En dessous ou au-dessus de ces normes-là, on n'a même plus le droit de potabiliser. Donc il faudra faire très attention également à la quantité de prélèvement que l'on va faire sur la ressource, de manière à être toujours sûr de pouvoir alimenter ceux qui en ont besoin. Quoi.
Alors le malheur, c'est que moins il y a d'eau, plus les normes de potabilisation
varient. Elles sont franchies hein, au-delà. Quoi. Donc ça c'est le risque. C'est effectivement le risque. L'autre risque, effectivement, c'est que quand on sait qu'il y a plus de 20% de prélèvement pour les usages de l'économie et les usages domestiques des êtres humains, donc plus de 20% de prélèvement par rapport à la quantité de précipitation, on est en tension. Parce que quand il pleut, c'est pas que pour les êtres humains, leur économie et leurs besoins, c'est aussi pour la nature. C'est une forêt consomme entre 3000 et 5000 mètres cubes d'eau par hectare et par an. Quoi. Donc Voilà, on a besoin de la forêt également. Les prairies naturelles, même si on les appelle prairies sèches, elles ont besoin d'eau également, quoi. Les cours d'eau ont besoin d'eau aussi, hein. Donc, savoir que, par exemple, la quantité d'eau qui est produite par la pluviométrie sur le pays Midi-Quartier, hein, est évacuée à 56% par la Garonne. Mais s'il n'y avait pas cette eau-là qui va vers la Garonne, alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est quand même comme ça à l'heure actuelle, on n'aurait pas d'énergie non plus. Une partie d'énergie qu'on appelle blanche, hein, la houille blanche, en fait, celle des barrages. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément sur l'Aveyron, qui est le principal émissaire du pays Midi-Quercy, mais au bout voilà, du côté de Saint-Nicolas-de-la-Grave, il y a une centrale de production d'énergie qui a besoin d'énormément d'eau. Voilà, si on ne fait pas attention, non seulement on sera privé d'eau, mais on sera privé d'énergie aussi, quoi.
Alors l'eau, il est bon de recontextualiser. En effet, l'eau sous toutes ses formes, sa qualité, son abondance, et puis il est bon aussi de la mettre en lien avec le reste de ce qui constitue la planète. J'ai entendu des choses du genre, pour économiser d'eau, faut couper les arbres parce qu'ils boivent énormément.
Alors ça, c'est une erreur fondamentale, ça. En fait, l'évapotranspiration en fait des arbres, c'est ce qui permet de faire des nuages. Si on coupait les arbres, vous voyez le Sahara, hein? Donc, sans commentaire. Hein.
Voilà. L'eau en Midi-Quercy, c'est une conférence qui nous est proposée ce vendredi par l'association Les Échanges Essentiels. Ce sera à 18h30 à l'auditorium du château de Nègrepelisse. Elle sera animée par vous-même, Christian Tchoke. Je rappelle que vous êtes président du conseil scientifique du parc naturel régional des Causses du Quercy. Avant qu'on se quitte, peut-être une mise en parallèle avec toute cette histoire de potabilité et de minéralisation des usines d'eau en France en ce moment.
C'est un marché, donc s'il y a un marché, c'est que ça correspond à une demande, donc peut-être à un besoin, même si le besoin est peut-être largement créé. Sur l'eau potable en général, je peux vous assurer qu'une des meilleures eaux potables qui puisse exister, c'est celle du robinet.
Alors,
elle a un avantage, elle n'est pas chère.
Elle
est beaucoup moins chère que l'eau en bouteille, en tous les cas.
J'ai entendu l'inverse, mais vous saurez nous contredire ce vendredi lors de votre conférence. Du coup, on vous retrouve là-bas, Christian Tchoke. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie infiniment.
Au revoir.
Au revoir.
Ce n'est pas le revoir, ce dernier mot dans nos regards. Ne meurs pas en un soir, non, ce n'est pas ça le revoir. Ce n'est qu'une fin du monde, une longue maladie sans mémoire. Tout s'est écrit dans nos ombres, nous n'avons pas voulu le voir. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois, tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume et dans tout ce que nous fume. Nous avons tous les mêmes prisons, les mêmes désir à faire naître avant de tout faire disparaître aux couleurs tristes des maisons. Dans l'alcool caché sous l'évier, les silences lourds des dîners. Nous avons tous ce vide immense, ce sourire pâle à maquiller. Mais ce n'est qu'une fin du monde qui s'écrit sans nous le dire. Sous les cigarettes qui flambent, tout le monde se cache pour vieillir. Tout ce qui nous fume est dans tout. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. au hasard de nos mains trop lentes à écrire le sens caché de notre histoire. Tout ce qui nous fume et dans tout ce que nous fume, tu vois tout ce qui nous fume et dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume et dans tout ce que nous fume, tu vois tout ce qui nous fume et dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume et dans tout ce que nous fume, tu vois tout ce qui nous fume et dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume et dans tout ce que nous fume, tu vois tout ce qui nous fume et dans tout ce que nous fume.
CFM Caylus, le mag.
Et la deuxième partie de ce mag, c'est autour de la journée Petite Enfance qui est organisée pour ce samedi du côté d'Espinasse. Une journée qui est organisée, coordonnée par le service Petite Enfance de la communauté de communes Quercy-Rouergue, Gorges de l'Aveyron. La coordinatrice est Carole Aran. Bonjour.
Bonjour Lisa.
Alors on va détailler le programme de tout ce qui nous est proposé ce samedi. Alors ce qui est proposé aux familles, aux professionnels et aux futurs professionnels de la petite enfance. C'est pas une journée où les parents vont venir déposer leur enfant dans un coin et où des personnes, des animateurs vont s'en occuper de les distraire, non. C'est bien une journée qui est dédiée aux familles elles-mêmes, mais donc aux professionnels. On va commencer par ça. Il y a un manque de professionnels autour de la petite enfance sur la communauté de communes.
Oui, sur la communauté de communes, il y a un manque de professionnels, assistantes maternelles. Et moi qui m'occupe de la commission intercommunale de l'attribution des places, en fait deux fois par an, on a toujours des familles à qui on ne peut pas répondre positivement pour faire garder leurs enfants. Et c'est une réelle problématique puisque ça peut avoir une influence sur leur travail, sur éventuellement des propositions de formation pour accepter d'y aller, parce que forcément, pour pouvoir aller travailler ou aller en formation, bah, il faut pouvoir avoir un mode d'accueil pour son enfant. Donc c'est une réelle difficulté. Mmh. Et cette journée, donc pour répondre à votre première question, elle est effectivement à l'attention alors, des familles, des professionnels actuels et futurs. Et c'est vrai que la matinée en fait de ce samedi 16 mars va être plus à l'attention des professionnels qui ont envie de se renseigner sur le métier de la petite enfance. Donc pour ça en fait on a des stands qui vont être donc occupés par des membres de la, enfin des techniciens de la CAF, de la PMI. On va avoir une personne aussi de France Travail. On va avoir également des professionnels qui œuvrent dans le secteur de la petite enfance, et on a organisé en fait ce qu'on appelle une foire aux questions, où les professionnels ou les personnes qui sont en train de se questionner sur le métier qui dans la petite enfance vont pouvoir poser des questions et avoir des réponses sur comment faire pour être une assistante maternelle, où est-ce que je peux avoir l'agrément, quel est le contenu de la formation, et pareil pour travailler en crèche, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait pour travailler en crèche. Donc là en fait on aura plusieurs professionnels, donc les personnes de la PMI qui sont habilitées à donner les agréments aux personnes qui font leur demande pour pratiquer comme assistante maternelle, et aussi les personnes de France Travail qui vont aussi pouvoir aiguiller sur les démarches à mettre en place pour arriver à avoir la formation. Voilà.
On aura aussi la DMR autour des interventions sociales et familiales, les centres de loisirs, accueil de loisirs sans hébergement.
Les centres de loisirs, c'est ça, oui, tout à fait.
De la communauté de communes, donc la Guépic, Élus, Saint-Antonin. Assistante maternelle, vous le disiez, maison d'assistante maternelle de Caylus.
Oui, tout à fait, qui ont ouvert il n'y a pas très longtemps, et elles seront présentes pour pouvoir répondre à des questions d'ordre comment on fait pour monter une maison d'assistante maternelle, et voilà, comment ça se passe, quoi.
Ça sera à partir de 10h du côté de la salle des fêtes d'Espinasse, avec une possibilité de restauration sur place, bien sûr, entre midi et 13h30. Et puis là, l'après-midi, là, c'est un petit peu plus pour les familles. Justement, ça va commencer par une conférence autour de la gestion des émotions à 13h30.
Oui, tout à fait, qui va être proposé par une personne qui travaille en lien avec l'association Care Silence, qui sera de toute façon aussi présente, qu'il y aura un stand de présentation, puisqu'elle elle travaille sur le territoire, donc sur la gestion des émotions. Voilà. Donc, ce qui peut intéresser et les professionnels et les familles, puisque qu'est-ce qu'on fait face à un enfant qui pleure ou une colère, comment est-ce qu'on comprend ces émotions-là, parce que toutes ces expressions-là, c'est une expression d'émotion. Donc, comment est-ce qu'on peut réagir au mieux, avec ce qu'on est aussi, mais en tout cas, quand on comprend un peu ce qui se passe, pour la réponse, c'est un peu plus facile, on va dire.
Très, beaucoup plus facile. À 15h30, spectacle Alfred et Suzette.
Oui, alors ça c'est un spectacle qui va être proposé par Laura Morel-Charpentier, qui va aussi avoir un stand et qui est aussi comédienne, et avec Magali Massala, qui intervient, qui est musicienne, qui intervient aussi dans le domaine de la petite enfance. Voilà. Donc, elles ont fait un spectacle, toutes les deux. Enfin, c'est pas leur premier, c'est leur deuxième. Et ça s'appelle Alfred et Suzette, donc, qui est offert aux familles, à partir de 15h30. Et après, en fait, il y aura un goûter qui va être offert à toutes les personnes présentes pour finir la journée de manière festive et conviviale.
Sachant que tout au long de l'après-midi, il y a aussi du maquillage pour les tout-petits. Il y aura la présence d'une psychomotricienne, d'une grapho-éducatrice, où là, il s'agit de mieux écrire, de mieux tenir son stylo, d'écrire sans se faire mal. On a des puéricultrices, des psychologues, de la médiation animale aussi.
Oui, par l'association Les Archereaux. Voilà. En fait, au niveau des stands de maquillage, les Archereaux, on aura aussi les personnes des médiathèques qui vont être présentes pour proposer des lectures. Ça va être en fait sur toute la journée. Voilà. Mais ça veut dire que les familles peuvent aller dans les stands, découvrir en fait les activités ou passer un temps tout simplement avec leur enfant autour d'un livre ou discuter des différents projets qui existent sur le territoire.
Sachant qu'on le rappelle, le but n'est pas de poser son enfant dans un coin, c'est bien de participer tous ensemble.
Oui.
Une journée de la petite enfance initiée par la communauté de communes, par le service petite enfance de la communauté de communes Quercy-Rouergue, Ganges de l'Aveyron, pour venir rencontrer les professionnels, voir comment il est possible de se former, puisqu'on le redit, il y a un manque de
professionnels petite enfance.
Absolument. Et si on ne peut pas venir cette journée, on peut faire le détour par le site de la communauté de communes, peut-être vous contacter.
Complètement, voilà. De toute façon, alors le programme, en fait, il est visible en fait sur le site de la QRGA. Et après, il y a un numéro de téléphone et on peut effectivement joindre ce numéro pour avoir des précisions sur les différentes choses qui existent sur le territoire. Alors notamment, il y a aussi les lieux d'accueil enfants-parents. Voilà, qui existe sur Caylus et sur Saint-Antonin. Il y a aussi le relais petite enfance qui est aussi un lieu d'information en fait pour les futurs professionnels et aussi pour les familles. Donc si on peut pas venir, on peut avoir des renseignements par ce biais-là.
Ce sera aussi cette journée de samedi, donc à la salle des fêtes d'Espinasse, l'occasion de s'inscrire à une formation qui est offerte par Groupama, une formation Les gestes qui sauvent les jeunes enfants qui va se dérouler à Saint-Antonin, Nobleval.
Voilà. Cette journée-là, ce sera le 6 avril en fait.
Donc sinon, le détour, c'est sur le www.cc-qrga.fr. Le rendez-vous, c'est ce samedi de 10h à 17h à la salle des fêtes d'Espinasse, sachant que les temps pour les professionnels ou futurs professionnels, c'est plutôt le matin et que les espaces dédiés aux familles, c'est plutôt l'après-midi.
Voilà, en sachant que chacun peut venir s'il est intéressé, mais effectivement, plus sur la partie métier de la petite enfance, plutôt la matinée, effectivement. Et après, l'après-midi, c'est plus festif pour les familles avec les enfants.
Une journée petite enfance offerte par la communauté de communes Kiergia. Et c'était la coordinatrice petite enfance de cette même Comcom qui nous en déroulait le programme. Carole Arand, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et merci à tous et à chacun de nous avoir suivis tout au long de ce MAG qui sera, comme d'habitude, rediffusé à 18h ainsi qu'à 21h. Et comme de coutume, à réécouter sans modération et en podcast sur le site de cfmradio.fr. Là, c'est les infos.